un certain François Rabelais a pu raconter un soir l'histoire de Pantagruel qui, au cours d'une expédition aux confins des mers glaciales, a entendu des cris venus de nulle part. N'écoutant que son courage qui ne lui disait pas grand-chose, il a tenté de s'enfuir avant qu'on lui explique qu'une grande bataille avait eu lieu l'hiver précédent, un hiver si rude que les paroles des guerriers avaient gelé. Et donc forcément, réchauffement climatique oblige, ces paroles étaient simplement en train de fondre, en laissant échapper des sons de toutes les couleurs. Bref, il vient toujours un temps où toute parole enfermée trop longtemps reprend voix et se fait entendre, brutalement ou sous la forme d'une symphonie arctique. D'où l'expression « la musique adoucit les morses ». Et comme demain n'est pas seulement un rêve de manchot, ce temps est peut-être proche, maintenant ou tout de suite, pour entendre quelques sons de banquise, notamment issus du label Rune Gramophone, un label norvégien qui cultive, parfois jusqu'à l'absurde, le goût de l'aventure musicale.
Tell me all about.
I want to hear all about.
To hear all about Miss Sarn, a fairly unstable phenomenon, I hear. Ungetzer, not in simple order, no doubt.
Tell them, Miss Sarn!
Well, here's of the North Early Sea.
No more. Doesn't all this work out that way, you see? There is still no finger. Join it, I hear the cardago, the fairy dame, the tongue painted, or the dying audible oil it. Is it? It's not all. Still hope to say ah, in influenza. And the wheel seems in the idle corridor. to aim, not fear, damn shame. Tain't no way round that jam's the dame. Cause it's shit hard, cause her heart, guess her heart is back in.
Bourrasque, tombement de neige et verglas formaient à présent les jours. La terre désormais était aussi croûteuse qu'échine de tortue. Surgelés accoutraient les arbres qui craquaient au moindre soufflement de bise.
Thank you.
quand tu seras couché à une place enfin appropriée, sur un champ d'ordures et plus becqueté d'oiseaux que des à coudre, il t'arrivera encore, disons une ou deux fois par jour, d'avoir l'illusion de la conscience. Et chaque fois que tu ouvriras les paupières, les oiseaux surpris par ce bruit inattendu s'envoleront de gauche à droite, toujours dans le même sens qui s'explique peut-être par la rotation terrestre ou peut-être par autre chose qui nous échappe et qui nous échappera toujours. Ils s'envoleront à l'intérieur de ton silence, comme désireux de provoquer avec leurs ailes un vacarme plus assourdissant et plus riche que celui qu'auront fait naître tes membranes. Mais ces battements et ces claquements resteront à l'écart de tes perceptions. Ailes et plumes remueront l'idée du bruit sans que concrètement le bruit vienne se déposer en toi. Et, en réalité, rien ne te sera accordé de cette agitation formidable, sinon des ombres parfaites et des odeurs de corps suspendus, assombris par le contre-jour. Chaque fois que tu ouvriras ainsi les paupières, la multitude volante éclatera devant la surface de ta mémoire sans y pénétrer. Ce sera une image fixe arrêtée, comme à jamais sur la matière de tes rétines. Tu auras établi les règles d'un jeu triste, par désœuvrement ou par un effet de mélancolie, tu auras inventé les conditions d'un pari entre toi et le hasard. Pour gagner, il faudra capter en une seule image 343 mouettes exactement, pas une de plus, pas une de moins. C'est un nombre dont tu aimais la musicalité, mais qui, dans ton existence antérieure, ne t'aura pas porté chance, ni d'ailleurs malchance, un nombre qui ne t'aura rien apporté quand on y pense. Tu auras mutilé toi-même ton regard jusqu'à y compter 343 déchirures. Ce sera une grille pratique pour évaluer d'un coup d'œil le résultat du jeu. Dès que tu décèleras les paupières, tu sauras donc que tu as perdu encore contre le hasard. Le total des oiseaux approchera peut-être une valeur idéale, harmonieuse. Mais tu auras perdu.
c'est un tout jeune éléphant de mer. On aimait beaucoup les imiter, se mettre en face d'eux et les imiter. Et il râle pas mal quand... Il a l'air d'avoir faim.
Je m'appelle Florence Esther, donc je suis ingénieure agronome et quand j'avais 21 ans, je suis partie pour 15 mois dans un territoire d'outre-mer français très peu connu, c'est Crozet, qui fait partie des terres australes antarctiques françaises. C'est dans l'océan Indien, au sud-sud de l'océan Indien, l'île dans laquelle je me trouvais est à mi-chemin entre l'île de la Réunion et l'Antarctique. C'est une île qui est grande comme l'île de Ré, qui fait partie d'un archipel de 5 îles, et où habitent, ou crèchent, ou nichent, un très grand nombre d'espèces, donc des manchots, des éléphants de mer, des otaries, des albatros. Maintenant, j'ai 26 ans. Donc là, ce sont les manchots royaux. Là, on entend des parents qui se répondent et un poussin entre les deux. Donc là, le poussin est vraiment ravi de voir ses parents arriver puisqu'il sait qu'il va être nourri. Quand les deux sont là, il va être deux fois mieux nourri. Mais ça peut durer des heures et des heures comme ça. Le père, la mère, le poussin au milieu. Ils chantent toute la journée. C'est fatigant à la fin. Il faut savoir que quand on est dans une manchotière un peu dense, c'est comme d'être au milieu du périphérique. C'est vraiment très 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 bruyant. Pas seulement que c'est fatigant, c'est que c'est vraiment dur même d'y travailler, puisque si jamais on est deux personnes dans une manchotière et qu'un des deux tourne le dos, même à 2 mètres ou 3 mètres, on aura beau hurler de toutes ses forces, la personne avec qui on travaille ne pourra pas nous entendre si elle ne nous voit pas hurler, parce qu'il y a trop de bruit. De 7h du matin jusqu'à 8h du soir, 9h du soir, c'est un perpétuel brouhaha, une grande foire dans laquelle les partenaires doivent se retrouver, les poussins doivent retrouver leurs parents. Il faut à tout prix retrouver la personne qui va vous nourrir ou la personne qu'on doit nourrir pour parvenir à se reproduire et à continuer de vivre. Je suis arrivée dans la manchotière, je me suis posée et j'avais l'impression que c'était un documentaire d'Arte ou d'ailleurs qui était juste pour moi. Ça veut dire que j'étais assise et je voyais tous les manchots et je pouvais regarder dans la direction où je voulais, j'en voyais partout et c'était une manchotière, ça va mourir de rire. On dirait une plage avec des petits bourgeois, ils sont là, ils s'installent les uns à côté des autres, ils se battent parce qu'il y en a un qui prend un peu plus de place que l'autre. Alors ils se suivent à la queue leu leu pour traverser la manchotière en se prenant moins de coups de bec. Et c'est vraiment très très drôle. On voit des poussins qui se battent avec des kionistes, donc les kionistes, c'est des petits pigeons qui traînent par là-bas. des éléphants de mer qui essaient de se frayer un chemin au milieu des manchots, donc les manchots qui courent dans tous les sens parce que ça les effraie. Ils sont très tassés, je dirais que on va dire sur la surface d'un terrain de foot, ils peuvent être 50 000. La plus grande manchotière fait un million de manchots. Quand ils couvent, on a l'impression qu'ils sont tout petits, ils arrivent à la moitié du mollet. Et ils sont tout tassés, mais quand ils font les beaux, quand ils se séduisent, quand ils paradent, ils peuvent arriver, on va dire, jusqu'à mi-fémur, mi-cuisse. Et là, ils sont grands, ils se mettent en avant, ils ont des couleurs vraiment très chatoyantes, ils ont des dégradés du orange vers le blanc sur le ventre. Et ils sont à la fois majestueux quand il faut être majestueux, donc quand il faut parader, mais très, très souvent ridicules. Moi, j'ai vu des manchots qui se prenaient la patte dans les algues et qui continuaient de se battre contre l'algue jusqu'au moment où ils se cassaient la figure par terre. Et quand ils se remettent debout, ils font « bon, personne n'a rien vu, on fait comme si de rien n'était », ils continuent d'avancer et voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont amusants, ils sont vraiment très très drôles. Là, ce sont des gorfous macaroni, aussi appelés gorfous dorés. C'est une autre espèce de manchot. Ce sont des manchots qui ont des aigrettes jaunes sur le dessus de la tête et des yeux très rouges, qui font assez peur. Ils sont très agressifs et ils passent leur temps à se battre entre eux pour leur territoire. Et eux aussi font beaucoup, beaucoup de bruit. Les colonies sont très, très bruyantes. C'est ces animaux que j'ai étudiés et dont on aimerait savoir comment ils codent leur identité, comment ils se reconnaissent entre eux grâce à leur chant. Et on a modifié leur chant pour savoir quelles étaient les parties du chant qui étaient importantes pour eux pour communiquer, donc entre partenaires et entre les parents et le poussin. Moi, je m'appelle Florence. Si j'étais un manchot, quand j'arrive dans la colonie, je dis « Florence, Florence, je suis Florence ». Et donc là, si mon petit ami s'appelle Marc, mon petit ami va dire « Marc, Marc ». Et donc, je saurai qu'il est là. C'est un peu Roméo et Juliette. Hein. Et quand j'entends Marc, je vais me rapprocher de Marc. Et quand il entend Florence, il va se rapprocher de Florence. Et à la fin, on va se retrouver. Les manchots donc se relaient, il y a le père et la mère qui s'occupent de l'œuf et du poussin. Ça veut dire que par exemple la femelle pond, elle donne tout de suite l'œuf au mâle et elle va se restaurer en mer, donc elle part pêcher. Quand elle revient, il faut qu'elle retrouve son partenaire. Elle dit donc Florence, Florence, son mâle dit Marc, Marc, ils se retrouvent et là il y a échange de l'œuf. Et le mâle qui donc lui était affamé part en mer pêcher. Et ainsi de suite, donc tous les 15 jours ils échangent. Ensuite, quand le poussin est émancipé, on appelle ça émancipé, c'est le moment où il est assez grand pour se réunir avec ses amis dans des crèches, avec tous les autres poussins. Et les deux parents peuvent partir ensemble. Et ils se relaient pour ramener de plus en plus de poissons, parce que plus le poussin grandit, plus il a des besoins énergétiques importants et plus il a besoin de poissons. Donc là, c'est pareil, quand les adultes reviennent, il faut qu'ils puissent retrouver leur poussin. Donc ils disent « c'est papa », le poussin dit « c'est moi », et ils se reconnaissent comme ça, ils se retrouvent. Et on voulait savoir comment. Faisait, c'est qu'on enregistrait le chant de l'adulte Et quand l'adulte n'était plus là, 3 jours, 4 jours, une semaine après, on revenait avec un haut-parleur et on repassait le chant du père ou de la mère du poussin au poussin. Donc là, c'était à la fois drôle et à la fois triste. C'est on passe le chant au poussin, le poussin vient en courant vers le haut-parleur. Puis quand il est devant le haut-parleur, il fait « bah mince, j'ai rêvé ou quoi ? J'ai cru que j'ai entendu papa » et en fait, bah non. Et le problème, c'est que quand le poussin entend son père, il est ravi parce qu'il va être nourri. Et on lui dit « bah non, désolé, c'était pour une expérience scientifique, merci d'avoir participé ». Et au milieu de l'hiver, c'est très dur parce que au milieu de l'hiver, les poussins sont nourris une fois tous les 15 jours ou 3 semaines. Et si jamais ils ont loupé le passage de leurs parents, bah ça veut dire qu'ils vont repasser encore 3 semaines sans manger. Et là, c'est de la torture psychologique un peu ce qu'on faisait. Mais c'était pour la science. Ensuite, on faisait des expériences donc sur le poussin pour savoir quelle partie du chant de son adulte était importante pour qu'il le reconnaisse. Donc à partir de là, on prenait le chant de l'adulte et on modifiait ce chant. Et quand le poussin ne reconnaissait plus le chant, on savait qu'on avait touché quelque chose qui était important pour le poussin pour reconnaître son adulte. Alors on filtrait le son, donc soit on éliminait les aigus, soit on éliminait les graves. On pouvait faire d'autres choses encore. On inversait le chant. Ça veut dire qu'à la place de Florence, je suis Florence, on aurait dit Florence, enfin, quelque chose comme ça. Ensuite, on a choisi
Marc,
de le mettre plus aigu d'un ton.
Marc.
Donc même à l'oreille humaine, on entend qu'il y a une petite différence, mais qui n'est pas très très importante. Donc là, il y avait toujours beaucoup de poussins qui reconnaissaient leur adulte. On a décidé de monter encore d'un ton. Ça donne ça.
Marc.
Et donc là, les poussins, en revanche, ne reconnaissaient plus son adulte, donc leur adulte. Donc on l'a essayé dans l'autre sens. Donc on entend à nouveau le chant normal.
Marc.
Ensuite, on le descend d'un ton.
Marc.
Là, les poussins reconnaissent toujours. En revanche, si on descend encore d'un ton.
Marc.
Ils ne reconnaissent plus. Donc ensuite, on s'est demandé si complètement inversé, le chant était encore reconnaissable. Donc là, ça veut dire qu'il faut vraiment imaginer le son dans un miroir. On l'a mis complètement à l'envers. On déroule le son à l'envers. Donc on va l'entendre.
Cram.
Et on l'a essayé dans l'autre sens, donc on entend à nouveau le chant normal.
Marc.
Donc, je ne sais pas si on entend
cram.
Bien la différence, mais le son a été complètement inversé et le poussin reconnaît toujours. Donc là, on est très surpris. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que ce n'est pas le rythme qui est important, ni même la mélodie. Parce que si on chante une mélodie à l'envers, on ne la reconnaît pas. Et en fait, quand on fait ces modifications et qu'on inverse complètement le son, la seule chose qui est conservée, c'est le timbre. Ils ne reconnaissent plus. Voilà. Donc à nouveau des sons étranges. Ce sont les oiseaux, les gorfous sauteurs. Quand on essaye d'isoler un chant de manchot et d'enregistrer plusieurs fois le même manchot et que d'un seul coup, il y a un chœur de 2, 3, 4 manchots qui chantent en même temps, moi ça m'est arrivé de dire maintenant vos gueules aux manchots tellement j'en avais marre de les entendre. On me disait, mais à quoi ça sert? La seule réponse que je pouvais faire, c'est à accroître la connaissance des êtres humains et à mieux connaître ces animaux. Il faut savoir que mieux on connaît la faune sauvage et plus on peut la protéger. Ça n'a pas d'application directe, mais la fameuse réponse que fait un chercheur du CNRS quand il lui dit, mais pourquoi vous cherchez ça? Ça sert à rien. C'est pas en améliorant la bougie qu'on a découvert la lampe électrique. Les gens qui travaillaient sur l'électricité au début, les gens leur disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Et puis maintenant, l'électricité, on ferait rien sans ça.
Atchoum. C'est un poussin qui éternue. Ça me faisait rire parce qu'en fait là-bas, ça me faisait rire mais c'était triste à la fois parce qu'un poussin qui attrape un rhume, il est quasi sûr de ne pas passer l'hiver en fait. Un rhume suffit à ce qu'il soit un peu moins attentif. Au moment où il éternue, un prédateur peut passer derrière, l'attraper. Enfin, il a moins de chances de s'en sortir. C'est vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Hein, la compétition chez les animaux, c'est ça. Hein, c'est comme les cyclistes, à pas grand-chose. Les plus gros prédateurs des manchots, c'est les pétrels géants. Il faut imaginer un énorme dindon avec un bec, on les appelait les tracoucas. Et ils peuvent s'accroquer les fesses d'un poussin très vite et le vider entièrement en une demi-heure. C'est vraiment là-bas que j'ai compris la sélection naturelle, la mort. C'est vrai que c'est normal, mais c'est dur au début, surtout quand les mises à mort durent très longtemps. Mais on avait aussi beaucoup de problèmes avec les militaires qui, eux, donc n'avaient pas la vision scientifique de la chose comme nous on l'avait, parce que nous, on avait tous une formation scientifique. Eux, tout ce qu'ils voyaient, c'était que ce salaud de pétrel géant était en train de tuer un petit poussin qu'ils aimaient bien. Et parfois, on a dû les empêcher d'arriver avec une batte et de taper sur le pétrel géant. Il y en a qui ont essayé d'attraper le pétrel géant. C'est la nature, même si c'est vrai qu'ils ont vraiment une sale tête et qu'on se dit... Là, on est en haut des falaises. Et alors, ce bruit de hocher, en fait, c'est le chant d'un des oiseaux les plus majestueux de l'île. Ce sont des albatros, les albatros fuligineux. La base est à 150 mètres d'altitude sur la falaise au-dessus de la Manchotière. On est à plus de 2 km de la Manchotière. Et quand le vent va dans la bonne direction, on entend la Manchotière. C'est-à-dire que même la nuit, ils continuent de chanter. Ils chantent tout le temps. C'est ça. Quand ils dorment dans une foire. Ils ne s'arrêtent jamais. La nuit, le niveau sonore est un peu plus faible, mais ils continuent de chanter, de chanter, de chanter. Pour se retrouver, pour continuer.
Arteradio.com.
La France héberge la moitié des manchots royaux du monde.
Chaman a une mère animale sous la forme d'un grand oiseau au bec en pic à glace, avec des griffes fourchues et une queue longue de 3 bonnes brassées. La mère animale assiste à la naissance et à l'éducation de l'âme du chaman. tard, elle ne revient qu'à sa mort. Si elle se montre au chaman, c'est un présage de sa disparition. On dit que toutes les mères animales à chaman se ressemblent par la couleur de leur plumage et le reste. La mère animale qui descend au pays inférieur avec l'âme du prétendant chaman veille à son éducation sur une ramure de sapin. L'âme d'un grand chaman est éduquée à la 9e branche à compter du bas.